Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux. Et nous retrouvons aujourd'hui à Maritsou le père José Willibald Michaud en bonne forme. Père José, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Nous allons continuer notre lecture cursive de l'Évangile selon Jean. Et vous savez, chers auditeurs, que nous souhaitons que notre échange fasse écho dans votre vie. Il y a un mois, nous avons parcouru le récit des noces de Cana, au début du chapitre 2. Cet épisode est présenté comme le commencement des signes de Jésus. Beaucoup désignent l'évangile de Jean comme le livre des signes. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur cette expression. Mais alors, comment lire la suite du chapitre 2 ? Car juste après Cana, il y a l'épisode des marchands du temple, et puis quelques versets qui terminent le chapitre 2, où l'Évangile dit qu'il savait ce qu'il y a dans l'homme. Tout cela mérite commentaire, nous y viendrons tout à l'heure. Je relis le chapitre 2 à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table. Et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera ». Mais les Juifs prirent la parole et dirent « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. » Et toi, tu le relèverais en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture, ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous. Il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Voilà les deux parties qui terminent ce chapitre 2. Alors, Père José, l'épisode du marchand du temple. D'accord. Peut-être quelques repères pour nous aider à lire.
Oui. Voilà, moi je me suis beaucoup interrogé sur la cohérence de ce chapitre. Et le fil conducteur de son développement. Et tout récemment, je me suis dit, au fond, il y a peut-être dans la pensée de l'évangéliste un thème qui les réunit, et c'est celui de la purification. Dans les noces de Cana, vous rappelez que c'est l'eau de la purification qui est changée en vin.
Tout à fait.
Donc le thème de la purification est très présent dans les noces de Cana. Et dans l'épisode des vendeurs chassés du temple, je crois aussi qu'il y a le thème de la purification du temple. Et en même temps, l'apparition de ce thème qui va continuer de courir pendant tout l'Évangile, au fond, le vrai temple de Dieu n'est plus un temple matériel qui est destiné à être détruit, mais la nouvelle présence vivante de Dieu dans la personne de Jésus. Son corps est le nouveau temple. Et il me semble que c'est ce thème qui peut réunir les deux épisodes. Alors, quand je m'interrogeais sur la cohérence de ce premier chapitre, je suis revenu un peu en arrière en me disant que celui qui fait le lien, c'est Jean le Baptiste. C'est lui qui ouvre l'évangile. À la fin du prologue, auquel nous reviendrons en fin de parcours, et c'est le premier témoin qui parle de celui qui doit venir après lui. Et Jean ouvre l'évangile par ce témoignage et le ferme à la fin du chapitre 2 en revenant exactement sur ce qu'il a dit. « Je ne suis pas le Messie, après moi vient celui qui est plus grand que moi. Il faut que je diminue et que lui croisse. »
Oui, entre-temps, il y aura eu l'épisode de Nicodème.
Hein, et il y aura l'épisode de Nicodème.
Et donc, c'est à la fin du chapitre 3 qu'il revient. Oui. Et donc, effectivement, il inaugure et puis il revient.
Donc, il conclut cette première semaine.
C'est ça, d'accord. Et donc ici, le temple, c'est, on est orienté vers le temple du corps de Jésus.
Oui, c'est ça. Ce thème va se développer doucement et souplement dans le corps de tout l'évangile. Déjà dès le chapitre 4, lors de la rencontre avec la Samaritaine, Jésus va dire « Mais ce n'est plus sur cette montagne ». Ni à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu, Dieu est esprit. Désormais, il attend les adorateurs en vérité et en esprit.
Pourtant, Père José, le temple à l'époque représente beaucoup. C'est un centre politique et économique.
Absolument. Il est le centre de toute la religion juive. Tout converge vers le temple. Et Jésus, d'ailleurs, au cours de sa vie, revient régulièrement au temple.
Et finalement, qu'il y ait des marchands dans le temple, ce n'est pas tout à fait inhabituel, c'était courant à l'époque. Jésus s'attaque donc à
un excès. Un excès et à une perversion. Tout à coup, le trafic a remplacé la piété.
D'accord. Les choses ne sont pas à leur place.
Les choses ne sont pas en place.
D'accord. Donc, c'est vraiment le passage. L'invitation à un passage vers un temple spirituel.
Oui, tout à fait.
C'est bien ça. Alors, il y a tout de même cette brusquerie de Jésus. On voit, c'est vraiment le contraire du doux petit Jésus, là.
C'est ça. Mais Jésus n'est jamais violent vis-à-vis des personnes. Mais bien, il peut l'être vis-à-vis des catégories et des attitudes. Et ici, ce qu'il chasse, c'est l'ambiguïté de ce trafic. Il ne s'en prend pas aux personnes, mais il s'en prend à cette habitude perverse qui avait inversé les valeurs. Donc, alors, Jésus devait être une personnalité assez arrêtée. Et Jésus sait être ferme et tranchant. Mais jamais pour condamner une personne. Jamais.
D'accord. Et c'est donc vraiment une attitude mercantile, une attitude qui fait passer, au fond, l'intérêt, l'argent et le pouvoir
avant
la personne. Je crois qu'on peut en prendre de la graine et je pense que, si j'ai bien entendu et si j'ai bien lu, la dernière encyclique du pape François va exactement dans ce sens-là. Oui, c'est finalement que cette folie de l'argent et du pouvoir, et nous avons déjà cela ici, nous voyons une réaction extrêmement violente de la part de Jésus.
Oui. Et Jésus assume la violence. Il dit quelque part, le royaume des cieux, il est ouvert aux violents. Il faut une certaine violence, c'est-à-dire une radicalité, pour aller jusqu'au bout de l'appel.
C'est un appel vigoureux, finalement.
Oui.
C'est un appel à se mettre debout.
Tout à fait.
Et ce n'est pas un appel douceâtre, en tout cas.
Jamais.
Jamais. Mais je reviens là-dessus parce qu'on a fait des images et des caricatures et des représentations très Saint-Sulpiciennes, évidemment, et nous sommes encore marqués par ce genre de choses. Et alors, il y a une chose intéressante aussi, certains commentateurs disent qu'il est extrêmement rude vis-à-vis des riches marchands et des changeurs, et puis avec ceux qu'on pourrait appeler les petits commerçants, ceux qui s'adressent aux plus pauvres,
Oui.
il a l'air un peu moins brusque.
Oui.
Il y a cette
Oui.
progression.
Ah oui, je crois. Je crois, oui, elle est sensible.
Elle est sensible. Et donc ce sont les personnes là aussi qui sont derrière. Et puis alors, il y a l'interpellation des Juifs. Les Juifs commencent de nouveau à discuter. Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte? Quel est le sens de cette interrogation? Pourtant, Jésus avait déjà été très explicite.
Mais c'est là qu'il y a une ambiguïté sur le mot signe. Pour Jésus, le signe, c'est ce qui révèle en lumière la vérité. Et pour les Juifs, le signe, c'est la preuve qui convainc et qui contraint. Les Juifs lui demandent quelque chose de sûr, de matériel, d'assuré. Et Jésus leur apporte quelque chose d'éthéré, de subtil, qui demande l'ouverture du cœur pour être perçu.
Il cherche quelque chose qui convainc, qui
Oui.
contraint, qui oblige à croire,
Oui.
alors que Jésus
Oh.
propose une fiance, une confiance,
Exactement.
autrement dit, une foi.
Dans la liberté.
C'est cela. Et à
Oui.
partir du moment où on a cette confiance, on n'est pas dans la certitude.
Absolument.
Voilà.
Absolument. La foi traverse toujours l'enveloppe du doute. La foi suppose une traversée. Une traversée et une conversion.
Et donc finalement, un risque.
Un risque.
Or, notre époque, je pense, est obsédée par le risque. Et
Absolument.
on dit souvent que le risque zéro n'existe pas. Mais justement, il y a là, dans la vraie vie, en tout
Oui,
cas dans les
tout à
témoignages
fait.
de ces grands livres-là, la vie, c'est un
Ah,
risque.
mais tout à fait.
Et donc, ces Juifs demandent un signe qui contraint. Et alors, ce qui est toujours intéressant, c'est le décalage de la réponse de Jésus.
Oui.
Comment comprendre ça? Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est une sorte de provocation,
Ah
c'est du
oui, un
paradoxe.
défi. Ah oui, tout à fait. Face à leur obstination, Jésus leur répond par une parabole. La parabole, c'est comprenez le sens de ma parole, de ma venue, de ma présence, et vous retrouverez le chemin de Dieu.
Mais un sens spirituel,
Ah oui.
un sens symbolique
Ah, tout à fait,
véritablement.
tout à fait.
Et d'ailleurs, ils prennent ça au pied de la lettre. Il a fallu 46 ans
Oui.
pour construire, et toi, tu le relèverais en 3 jours. Évidemment, nous retrouverons ça chez Nicodème aussi, d'ailleurs,
Tout à
qui va
fait.
reprendre les choses. Un vieil homme ne peut pas
Rentrer
rentrer
dans la.
dans
Oui.
l'enceinte de ça, mais c'est la pédagogie de Jésus.
Toujours. Toujours. Jésus, je ne dis pas contraint, mais amène au dépassement de la matérialité immédiate pour faire accéder au sens spirituel et je dirais poétique de sa parole. Sa parole a toujours une dimension poétique, c'est-à-dire qu'elle demande un mouvement et un engagement du cœur pour être perçu.
C'est ça, c'est donc pas une sorte de parole éthérée,
Non,
c'est une parole
qui engage.
qui engage et qui au fond s'adresse au cœur et cherche le chemin du cœur.
Tout à fait.
Or le chemin du cœur, de notre cœur, il est parfois bien encombré.
Tout à fait.
Et voilà. Et donc le Jésus pédagogue, c'est celui-là.
Tout à fait. Et c'est intéressant d'ailleurs que dans le cours de sa vie terrestre, Jésus rencontre tout le temps cette attitude. J'aime beaucoup cet épisode où un homme vient lui demander de guérir son enfant. Jésus lui dit, mais vous avez toujours besoin de signes contraignants. Et l'homme répond, mais je crois Seigneur, mais viens au secours de mon manque de foi. Je trouve que c'est une merveilleuse prière. Et elle doit toujours rester la nôtre.
Nous allons faire une première pause musicale, Père José, avec un psaume qui est chanté par la communauté de Maretsu. Vous êtes sur RCF et nous continuons notre entretien avec le Père José Willibald Michaud à propos du deuxième chapitre de Saint Jean. Nous venons de commenter la purification du temple, les marchands du temple qui sont chassés avec pas mal de brusquerie par Jésus. Le Jésus que nous avons découvert, pédagogue qui essaie d'éveiller ce sens poétique avec une proposition de foi qui est contraire à toutes ces preuves qui convainquent et qui contraignent. C'est une invitation. Mais, Père José, il y a cette fin du chapitre 2. Vous vous souvenez sans doute, chers auditeurs, de la lecture. Je relis simplement un verset. Jésus a beaucoup de succès, mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous. Il n'avait nul besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'homme. Il savait, quant à lui, ce qu'il y a dans l'homme. Le pessimisme, ici, de l'Évangile ou de Jésus ?
Moi, je dirais le pessimisme. Et moi, c'est un pessimisme qui me rassure. Savoir que Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme, c'est réconfortant pour nous. Parce que, justement, le Jésus pédagogue reste sur notre chemin et nous conduit dans son mouvement en pédagogue, il ne force pas. Et donc, il respecte cette ambiguïté de l'homme. Il la respecte et il va la traverser.
Il ne se fait pas d'illusions, en quelque sorte.
Pas d'illusions.
Il y a chez lui radicalité et tendresse.
Tout à fait.
Ici, on ne voit pas la tendresse, on l'a vu à d'autres moments, oui. Mais radicalité et tendresse.
Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et ça reste fondamental dans la relation à Jésus, de reconnaître et de retrouver ces deux dimensions de son amour.
Et comme nous sommes dans la maison des fils de Saint-Benoît, c'est peut-être le moment de citer le père fondateur qui voulait regarder l'homme, disait Saint-Benoît, il voulait regarder l'homme sans illusion, mais avec une infinie tendresse. C'est au fond un petit peu ceci.
Tout à fait.
Sans illusion, mais avec une infinie tendresse.
Exactement.
Il y a au fond, alors, cette tendresse par rapport à la blessure de l'homme.
Oui, le mot blessure est important. Je crois que l'homme est un animal blessé. Mais que c'est de cette blessure que va jaillir sa liberté. Sa liberté nouvelle. J'aimais bien d'ailleurs cette phrase de Mounier qui dit « Quand je cherche à me faire de quelqu'un un ami, j'attends de découvrir en lui la blessure qui me le fera aimer et rencontrer. » La blessure.
Nous avons cité Saint-Benoît, nous avons cité Emmanuel Mounier. Revenons encore un petit peu en arrière avec cet épisode absolument extraordinaire de l'Ancien Testament. C'est l'épisode de Jacob. Jacob qui lutte toute une nuit et qui se retrouve blessé, justement, Père José.
Pour moi, Jacob est le patron des blessés de l'esprit. Dans son combat, il se mesure, si je puis dire, à quelqu'un dont il ne connaît pas bien, dont il ne sait pas bien l'identité. C'est un combat dans la nuit contre une puissance obscure qui fait obstacle au fond de lui. Et c'est sa résistance, oui, sa persévérance et sa résistance qui en font une sorte de vainqueur, mais de vainqueur blessé. Donc, dans le combat, Jacob sent que sa hanche est démise. Et lorsqu'il sort dans la lumière du jour qui naît, il restera avec ses blessures comme signe, comme souvenir, comme cicatrice du combat qu'il a mené à la liberté et à la découverte de lui-même. Il est renommé.
Il reçoit un nouveau nom.
Et
on sait que ça, à quel point c'est important pour le peuple juif,
absolument.
Évidemment. Il a donc une nouvelle destinée, mais il va boiter.
Et je crois que Jacob est en cela l'ancêtre, le patronyme de tous les blessés de l'esprit. Et il y a une dynastie des blessés de l'esprit et qui s'étend tout au long des siècles. Il y a Jacob, il y a Pierre, l'apôtre, et il y a alors, dans toute l'histoire de l'Église, vous avez cette dynastie des blessés de l'esprit. Et l'un de ceux auxquels je me réfère souvent, pour moi, il a été un témoin, c'est l'idiot de Dostoïevski, le prince Mouchkine, épileptique, portant la malédiction de son mal, et qui, en traversant cette épreuve, découvre une transparence et une liberté qui lui permet de rayonner sur toute sa génération. C'est un personnage parabolique et symbolique, mais qui est impressionnant.
Et je propose effectivement que nos auditeurs essayent de se laisser rejoindre parce que nous sommes, je pense, assez nombreux à être des boiteux comme cela plus modestement que Joseph ou que le prince Michkine, mais réellement dans notre vie de tous les jours. Nous allons en rester là pour aujourd'hui, oui. Père José, avec ce chapitre 2. Bientôt, chers auditeurs, pour le chapitre 3 et donc la rencontre de Jésus avec Nicodème, qui est un grand moment. Nous nous quittons avec Jacques Berthier à l'orgue de chœur de l'abbaye de Maritsou. Au revoir, à bientôt.